Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant: Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Comment Jésus traite-t-il les personnes mauvaises? Ben, tout d'abord, on rencontre ici un homme infréquentable. Un homme infréquentable. Vous connaissez quelqu'un qui est au-delà de la limite de l'acceptable, personne horrible, une personne toxique, peut-être votre patron, ou peut-être votre ex, juste pas envie de travailler avec eux, pas envie de les voir, peut-être votre ex-patron. Et une fois, je me souviens qu'un homme était venu à l'église qui était sorti de prison, et il voulait me voir. Il voulait pas seulement être à l'église, mais avoir une rencontre avec moi pendant la semaine. Et je me suis dit, je ne suis pas sûr si je suis prêt à rencontrer cet homme. Je ne savais pas pourquoi il avait été en prison, mais je savais qu'il avait été en prison. Et c'était quelqu'un de beaucoup plus costaud que moi, et très imposant. Et je me dis, s'il veut prendre mon portefeuille ou me faire du mal, moi je ne vais pas pouvoir lutter contre lui. Je me souviens aussi d'avoir été dans une autre église, dans un autre pays, et quelqu'un m'a fait remarquer qu'un homme qui était là était un pédophile condamné. Dans les deux cas, il y avait des raisons de faire attention, d'être prudent, mais mon inclination naturelle était de les fuir. C'est-à-dire, je ne vais pas parler avec eux, je ne vais même pas leur serrer la main. Ou au moins, je veux leur faire comprendre que moi, je ne suis pas comme eux, n'est-ce pas? Ben, Zachée était ce type d'homme, un homme infréquentable. Verset 2 nous dit qui il était. Il était un homme riche, chef de collecteur d'impôts. Il se faisait de l'argent parce qu'à Jéricho, en fait, c'était un lieu de passage, un lieu où les gens passaient d'un côté à l'autre du pays, et en passant par là, il y avait un péage. Et donc, il se faisait de l'argent. Probablement aussi, il allait chez les citoyens de la ville et leur demandait de l'argent. Vous pouvez penser que le collecteur d'impôts, c'était un travail respectable, mais au contraire, le collecteur d'impôts, c'est quelqu'un qui travaille pour l'oppresseur, le régime étranger, le régime de Rome. En faisant cela, il abuse de son propre peuple. Il est quelqu'un de malhonnête et d'égoïste. Vous savez que dans la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui étaient en Belgique et qui ont travaillé pour le régime d'occupation étaient appelés des collaborateurs. Et ils étaient méprisés par la population. Les autres les détestaient. Et les collecteurs d'impôts étaient détestés parce qu'ils étaient des traîtres. Le fonctionnement d'un collecteur d'impôts à l'époque, voici ce que c'était. Il calculait ce que les gens devaient payer à Rome. Et puis, non seulement ils exigeaient qu'ils payent cela, ce qui aurait déjà été assez difficile à avaler, mais en plus, ils demandaient un surplus qu'ils mettaient dans leur poche. Donc, s'ils disaient que le citoyen devait 3 pièces d'argent à Rome, il pouvait demander 4 pièces d'argent et prendre une pièce pour eux-mêmes. Et Zachée est devenu riche, et donc ça veut dire que ça marchait bien les affaires. Et ils savaient extorquer de l'argent des gens. Ce type était en fait un homme si notoire que quand, au verset 7, Jésus va chez lui, les autres savent qui c'est et ils disent que c'est un homme pécheur. Et nous sommes tous des pécheurs. Mais ça a été utilisé pour exprimer vraiment l'extrême. C'est le type de personne que vous ne pouvez pas inviter chez vous. Ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez côtoyer. C'est quelqu'un d'infréquentable. Vous ne voudriez pas être vu avec lui. Vous voyez, Zachée, ce n'est pas le petit gars mignon. Parfois, on pense à ce qui est petit et gentil. Alors, on dit, ah, Zachée, le petit brave. Non, ce n'est pas ça. C'est un homme affreux, un homme misérable. Vous savez, aujourd'hui, les gens traitent d'eux-mêmes de qui est quelqu'un à qui ils veulent donner l'approbation et à qui ils veulent donner de l'opprobre. On parle d'ostracisme social à l'égard de gens que nous croyons sont des mauvaises personnes. En janvier de cette année, ça s'est passé à un jeune qui s'appelait Alexander Rogers. Un étudiant d'Oxford, il avait 20 ans, et une rumeur a commencé à circuler par rapport à ce qu'il avait fait de mal. Et à cause de cela, ses amis même à l'université ont dit, écoute, on a besoin de prendre un peu de recul, on a besoin de prendre un peu de distance de toi, on ne veut pas te fréquenter, Alexander. C'est un jugement qui a été apporté en fait par le tribunal de l'opinion humaine. Et puis exécuté par le mouvement de groupe. On a dit, on veut t'éviter. Tu n'es plus des nôtres. Tu n'es plus le bienvenu parmi nous. Mais ça a été tellement grave pour Alexander que ce jeune homme a fini par se jeter dans une rivière pour mettre fin à ses jours. Zachée a fait l'expérience de l'ostracisme social aussi. C'était un exclu. C'était un homme infréquentable. Mais lui a pris une approche différente. Il a décidé qu'il voulait voir Jésus. Il a couru en avant et puis il est monté dans un arbre. Alors remarquez que Zachée ne cherchait pas nécessairement à rencontrer Jésus. Il n'essayait pas de l'inviter chez lui. C'est pas ça que fait Zachée. Il court en avant parce qu'il voit que Jésus arrive dans sa ville. Il court en avant, il monte dans un arbre pour pouvoir juste le voir. La Bible dit qu'il voulait voir qui il était. Parce que Jésus était quelqu'un de célèbre. On parlait de lui dans toutes les régions. Et donc, quand il vient dans sa ville, ben, c'est un moment immanquable pour rencontrer une célébrité. Et notre regard, après avoir vu cet homme infréquentable, notre attention tombe sur lui, verset 5, Jésus qui arrive à cet endroit. Et là, on va voir un sauveur incomparable. Un sauveur incomparable. Jésus va dans cette direction, il continue sa marche, il traverse la ville, mais il le voit, il lève les yeux et il lui parle. Et déjà, ça en soi, c'est quelque chose de remarquable. Il n'a pas nié, il n'a pas évité Zachée. Je pense que ça nous est tous arrivé, n'est-ce pas? De voir quelqu'un qu'on connaît, mais avec qui on ne veut pas parler, et juste de l'éviter. Peut-être que c'est dans le supermarché, vous voyez quelqu'un qui est là-bas, vous connaissez, pas envie de parler avec lui, et vous allez dans l'autre sens. En fait, Jésus aurait pu faire ça. En passant devant, Zachée dans l'arbre, il aurait pu juste l'éviter comme ça, passer devant, ne pas le voir. Il aurait pu aussi, et c'est ce qu'on pense qu'il aurait fait, dire, hé, Zachée, arrête. Toi, tu es quelqu'un de mauvais. Arrête de prendre l'argent de tes concitoyens. Ce que tu fais est mal. Mais ce n'est pas ce qu'il fait non plus. Regardez ce qui se passe. Verset 5. Il lève les yeux. Il lui dit, Zachée, il appelle par son nom. Jésus sait qui il est. Dépêche-toi de descendre. Parce que il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Jésus veut passer du temps avec lui. Verset 7, il est allé être l'invité d'un homme qui est un pécheur. Quand les gens murmurent comme ça au verset 7, c'est parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Et face à ce questionnement, Jésus doit expliquer pourquoi il est là. Et il montre quelle est la vraie raison de sa venue. Verset 10, il dit, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. D'abord, Jésus est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme a toute autorité. Dans une vision que le prophète Daniel a eue longtemps avant, des siècles auparavant, il a vu dans la présence de Dieu quelqu'un, l'homme le plus important de l'univers, quelqu'un qui recevait de la part de Dieu l'autorité sur toutes les nations, sur toutes les langues, avec un royaume qui n'aura pas de fin. Et ça, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme a toute autorité. Il n'y a personne de plus important que lui. Mais qu'est-ce que le Fils de l'homme fait ici? Il descend à notre niveau. Alors la phrase qui nous aide à comprendre la véritable histoire de Zachée se trouve au chapitre 18, verset 14. Là, au chapitre 18, Jésus a raconté une histoire qui est une histoire fictive de deux hommes qui prient au temple. Et l'un d'eux se croit juste, mais l'autre est un collecteur d'impôts. Et le collecteur d'impôts, dans l'histoire que Jésus raconte, est conscient de sa misère devant Dieu. Et il dit, aie pitié de moi, Dieu, aie pitié de moi. Et ce jour-là, il est justifié. Après avoir raconté cette histoire fictive, Luc va alors ensuite mettre en avant quelqu'un qui ressemble au premier homme, l'homme qui se croit juste, avec l'homme riche qui a obéi à tous les commandements. Et puis au chapitre 19, il va mettre en avant un autre homme réel, un homme véritable, qui était un collecteur d'impôts, Zachée. Et donc il faut remonter à cette parabole, l'histoire que Jésus a racontée au chapitre 18, pour comprendre un point clé. Je vais lire au chapitre 18, verset 14. Jésus dit, après avoir raconté ce que le collecteur d'impôts a prié, « Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. » Ça, c'est le point important. Toute personne qui s'élève sera abaissée, toute personne qui s'abaisse sera élevée. Il faut s'abaisser. Et c'est pourquoi dans notre histoire, au chapitre 19, il y a l'histoire avec la mention de l'arbre. On sait que cette histoire aurait pu avoir du sens sans raconter le détail du fait qu'il était dans un arbre, n'est-ce pas? Jésus se présente à Jéricho, il va voir Zachée, il va manger chez lui et il va changer sa vie. Ça a du sens. Donc pourquoi est-ce que le détail de l'arbre est important? Parce que Zachée est en haut. Et Luc veut nous enseigner ce qu'il a dit au chapitre 18. Jésus a dit, celui qui est élevé doit être abaissé. Il doit être abaissé, il doit descendre, il doit s'humilier, il doit s'abaisser, parce que c'est ridiculement prétentieux de penser qu'on peut voir Jésus de haut. Et dis-moi, je suis au-dessus de Jésus. Personne n'est au-dessus du Fils de l'homme. Mais vous savez, quelqu'un d'autre qui a fait ce pas avant nous, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu était haut placé, il avait toute autorité. Il était égal avec Dieu, mais il n'a pas vu l'égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est humilié en devenant un homme. Il est devenu esclave. Il est devenu obéissant à la mort, jusqu'à la mort, à la croix. Alors son abaissement est énorme. Il n'y a personne qui a fait un abaissement aussi grand, qui a fait un pas en bas aussi grand que celui qui est le Fils de Dieu, qui devient un homme et qui meurt à la croix. Mais après son abaissement, celui qui s'abaisse est élevé. Il a été élevé à la plus haute place et il nous montre le chemin. Nous devons nous abaisser. Pourquoi? Car le Fils de l'homme, on revient au chapitre 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver les perdus. C'est vital qu'on comprenne le pourquoi de sa venue. On est en dehors ici du cadre simplement de Zachée et Jésus. On est là dans quelque chose qui nous aide à comprendre l'entièreté de la venue de Jésus. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Pourquoi Jésus était-il là? Il n'est pas venu pour nous lier d'amitié. Il n'est pas venu non plus pour nous condamner, pour dire non, ça ne va pas, vous faites mal. Il est venu pour nous sauver. Et ça doit façonner toute notre attente par rapport à ceux qui sont là. Les autres mots qu'on peut utiliser qui seraient moins que la réalité. Aider. Puisque l'homme est venu aider, ou guider, ou enseigner. Non, Jésus est venu sauver parce que nous avons désespérément besoin d'être sauvés. L'humanité entière, avec toute notre intelligence, vous mettez tous les prix Nobel ensemble, avec leur intelligence, les savants de ce monde, avec toute notre expertise technologique, etc., etc., littéraire, sagesse du monde, philosophie, on n'arrive pas à être sauvés. Parce que nous sommes perdus et nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Nous avons besoin d'une solution qui vient d'en haut. Parce que nous sommes perdus. Peut-être que vous avez eu l'expérience d'être perdu, je veux dire perdu physiquement, on ne sait pas où on est, mais ce n'est pas si grave. Je me suis perdu dans un centre commercial, un shopping en Espagne. C'était très grand, c'était en forme de carré. Il y avait deux étages, et je me promenais comme ça, et j'oubliais en fait par quelle porte j'étais entré et par quelle porte je devais sortir. J'étais perdu un temps. Mais c'est pas grave. Ça m'est arrivé aussi avant l'époque des GPS de me perdre facilement. Je me souviens un jour, je roulais, je suis rentré dans une ville, je ne savais pas dans quelle ville j'étais. J'avais aucune idée dans quelle ville j'étais. Mais c'est pas grave. Par contre, être perdu dans la jungle ou être perdu dans le désert, là vous êtes vraiment perdu. Parce que non seulement vous ne savez pas où vous êtes, mais vous ne savez pas vous en sortir. Et c'est comme ça que nous sommes perdus, en danger. Et donc si nous nous sentons perdus ce matin, tendons la main à celui qui est venu nous chercher. Il est venu chercher des gens perdus. Et je sais que c'est difficile, parce que ce pas d'abaissement de là où nous pensons être, de là où nous sommes vraiment perdus et ayant besoin d'être secourus, c'est un pas d'humiliation. Ma maman disait, c'est plus facile pour un homme d'aller à la lune que d'être à genoux devant Dieu et de demander pardon et de reconnaître notre besoin de sa miséricorde. Ça, c'est un déplacement plus difficile. Mais ça nous aide aussi quand on réfléchit aux autres. Si nous pensons que les autres sont horribles, n'oublions pas que même les pires personnes peuvent être atteintes par la miséricorde de Dieu. Jésus est prêt à avoir un Zachée dans l'église. Et vous, vous êtes prêts pour ça? Vous savez, ce n'est pas à nous de choisir qui vient dans notre église, quelle que soit leur histoire sexuelle ou les crimes qu'ils ont commis par le passé. En Thaïlande, il y a notre église LifePoint en Thaïlande, ils ont accueilli une prostituée. Dans le cas de l'homme criminel qui était un ex-détenu et qui est venu me voir, je l'ai rencontré. C'est vrai qu'il avait une foi sincère, il avait soif de la parole. Et donc, même si moi je n'ai jamais fait la prison et moi je ne suis pas criminel, si cet homme croit en Christ, il est mon égal maintenant. Y a-t-il des gens que vous croyez au fond de vous que Dieu ne peut tout simplement pas sauver? Vous devez lire cette histoire pour vous rendre compte, pour vous encourager. Changez d'avis. Voyez les gens différemment. Le pire des gens peut être un ami de Jésus, un disciple de Jésus. Ça, c'est parce que notre Sauveur est incomparable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il va y avoir du changement chez Zachée. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et ça, c'est la dernière partie, c'est un changement immanquable. On va essayer de regarder un petit peu ce qui a changé pour Zachée. Verset 9, Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Changement extraordinaire que Zachée a vécu et qu'il a été sauvé. Jésus s'est abaissé dans notre humanité jusqu'à la mort. Pourquoi? Pour nous sauver. Et il opère ce salut à la croix en prenant sur lui nos fautes et la condamnation que nos fautes ont méritée. Ça change tout. Comme Pierre le dit dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, Christ a souffert une fois pour toutes pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, pour vous conduire à Dieu. Il nous conduit à Dieu. Il nous réconcilie avec Dieu le Père. Il l'a fait en mourant pour des gens injustes. Et donc, aujourd'hui, je ne suis plus un homme condamné. Je suis un homme sauvé. Et je suis à lui pour l'éternité. Quel beau jour dans ma vie. Plus beau jour de ma vie. Quand j'ai reçu le pardon et que j'ai été sauvé par Jésus-Christ. Et c'était le plus beau jour de la vie de Zachée. Voyez aussi comment Jésus l'honore par la façon dont il redéfinit l'identité de Zachée. Il dit de lui, c'est un fils d'Abraham. C'est un fils d'Abraham. Ça nous rappelle que celui qui s'humilie, Zachée s'est humilié, il sera élevé. Élevé, quel honneur d'être appelé fils d'Abraham. Abraham, c'est un homme de foi. Et donc, il est en train de dire, voici un homme de foi, un fils d'Abraham, quelqu'un qui vit comme Abraham, qui croit comme Abraham, le plus grand homme de foi de l'Ancien Testament. Mais en même temps, il est en train de dire qu'il appartient au peuple d'Abraham. Vous savez, je suis sûr que pour certains moments, à certains moments, Zachée n'avait pas l'impression de faire partie du peuple de Dieu. Les autres lui auraient dit, tu n'es pas des nôtres. Mais maintenant, Jésus dit, il est l'un de nous. C'est un fils d'Abraham. Quel honneur! Il ne s'agit pas de sa généalogie, bien sûr, il venait d'Abraham selon sa généalogie. Mais ça parle de son appartenance. Soudain, Jésus lui a donné une nouvelle identité. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont préoccupés par leur identité. Beaucoup de jeunes se posent la question de leur identité. Pourquoi? Ben, je pense qu'on sait bien que c'est important, mais c'est parce qu'on veut appartenir quelque part. On se dit, si j'arrive à savoir qui je suis, alors je pourrais trouver d'autres personnes qui sont comme moi et je pourrais appartenir. On veut tous être acceptés, on veut tous être inclus, n'est-ce pas? Et Jésus nous offre cette possibilité de ne pas être exclu de la citoyenneté du royaume de Dieu, mais de faire partie de son peuple par une nouvelle identité qu'il nous donne. C'est un changement radical. Il l'a sauvé et lui a donné une nouvelle identité. Et puis, il va y avoir un changement assez radical au niveau de son comportement. Verset 8, regardez le verset 8. Zachée dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. La moitié de sa fortune personnelle. Je ne sais pas, il a 80 000 euros en banque, en train de donner 40 000 là aux pauvres. Vous imaginez ça? Et du reste, de ce qui lui reste, il va restituer de l'argent à ses victimes. Donc d'une part, Zachée fait maintenant preuve d'une générosité extrême, mais aussi d'un sentiment de justice où il va rétablir les torts qu'il a commis. Mais même cette justice va être généreuse. Il ne va pas juste rembourser ce qu'il a pris, il va rembourser 4 fois ce qu'il a pris. Vous imaginez ça? Quel changement? Quel rendez-vous il a pris? Alors probablement, il n'avait pas toute la liste de toutes les personnes qu'il avait arnaquées, mais il aurait la liste des citoyens, il aurait leurs adresses, Et il serait passé chez eux. Ouais, c'est qui? Ah, c'est Zaché. Encore toi, sale chien. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'ai pris 10 pièces d'argent. 10 pièces d'argent, c'est pas assez pour toi? Qu'est-ce que tu veux maintenant? En fait, je veux te donner 40 pièces d'argent. J'imagine qu'en entendant ça, la porte s'est ouverte assez vite. Qu'est-ce qui se passe, Zaché? Ben, Jésus a changé ma vie. Vous voyez que Zaché, en fait, il avait trouvé quelque chose de plus précieux que l'or. Et il avait trouvé en Jésus quelqu'un pour qui il devait vivre. Alors qu'auparavant, il vivait par amour pour l'argent, maintenant son amour est changé en amour pour Dieu. Et cet amour de Dieu déborde chez lui en amour pour les gens. Il s'est rendu compte que connaître Jésus, ça valait plus que tout le trésor du monde. Alors l'argent, je le donne. Parce que j'ai trouvé une raison de vivre. Maintenant, je veux souligner que Jésus n'est pas apathique envers le péché. C'est pas comme si avant Jésus était droit et juste et croyait à la sainteté, et puis après il s'en fiche de la sainteté ou du péché. Le message que Jésus a annoncé aujourd'hui n'est pas que vous pouvez être égoïste et abusif et injuste, et c'est pas grave. Non. Dieu nous accepte. Jésus nous pardonne, mais Jésus nous change. Il nous transforme. Samuel Crossman a écrit un beau poème, il y a bien des années maintenant, quelques siècles, un beau poème en réfléchissant à l'amour de Dieu et l'amour de notre Sauveur pour nous. En réfléchissant à cela, il a écrit ce poème et c'est devenu un hymne bien connu, un hymne en anglais. Et il a écrit ceci: l'amour pour les affreux, afin qu'ils deviennent aimables. C'est ça en fait le sens de cette histoire, de ce que nous avons entendu ce matin. L'amour pour les affreux. L'amour véritable. L'amour au-delà de tout amour que nous pouvons connaître, de n'importe qui d'autre, que nous pouvons expérimenter. Ce n'est pas l'amour pour les beaux. C'est comme ça que nous sommes, n'est-ce pas? Un jeune homme rencontre une jeune femme et il tombe amoureux. Et on dit: ah, mais qu'est-ce qu'elle est charmante! Ah, mais oui, bien sûr, il l'aime, elle est charmante. Et lui, il est adorable. Mais bien sûr qu'elle l'aime, il est tellement gentil, ce garçon. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ils ont été attirés par les qualités de l'autre. Oui, mais l'amour de Jésus pour Zachée n'est pas l'amour pour quelqu'un d'aimable, quelqu'un de gentil. C'est l'amour pour quelqu'un qui est franchement pas aimable. Il est comme nous, il est horrible parfois. Et tous ceux que Jésus rencontrait étaient des pécheurs comme Zachée. Mais en un clin d'œil, Zachée a été changé et devenu une personne différente. Il devient aimable. Il devient aimant envers les autres. Il devient un homme généreux. Soudain, il se soucie des autres qu'il exploitait avant. Mais cette histoire n'est pas simplement une histoire. C'est réel pour nous aussi. Jésus, qui est vivant aujourd'hui, nous appelle, quel que soit notre nom, et quel que soit ce que nous avons fait par le passé, quel que soit notre état aujourd'hui. Ne pensez pas aux autres, je veux que vous pensiez simplement à vous et lui. En terminant avec quelques mots pour nous. Vous êtes une personne rejetée par les autres. Est-ce que c'est à cause de votre comportement? Vous vous reconnaissez dans ce portrait de Zachée? Eh bien, sachez que ce n'est pas fini. Le Seigneur peut faire quelque chose de profond dans votre vie. Vous ne devez pas vous réinventer, vous redéfinir, trouver une nouvelle identité que vous créez, mais plutôt recevoir la nouvelle identité que Jésus vous donnera. On a vu comment Christ traite les mauvaises personnes. Ben, il leur offre le pardon. Il veut les sauver. Alors, il fera justice. Il y a un jour de jugement où les torts seront réparés et tout sera mis en ordre. Mais maintenant, il offre le pardon, même aux pires des pécheurs. Il suffit de lui demander. Mais ensuite, nous devons aimer Jésus. Si aujourd'hui vous repartez après avoir entendu cette histoire de Jésus, l'histoire vraie, et que vous aimez davantage Jésus, que vous êtes un peu plus amoureux de lui, eh bien, c'est merveilleux. Nous avons contemplé un sauveur incomparable. Alors contemplez-le, louez-le, mais ne le gardez pas pour vous. Il y a d'autres personnes qui doivent encore entendre qui est ce sauveur unique et incomparable. Alors parlons-en autour de nous. Mais la troisième implication de ce que nous venons d'entendre, c'est que nous devons changer. Parce que peut-être que c'est vous qui avez intimidé quelqu'un ou exploité quelqu'un. C'est vous qui avez fait du mal aux autres. Vous n'avez pas réussi à aider quelqu'un qui avait des difficultés. Vous avez fait du tort à quelqu'un. Je veux que vous réfléchissiez à la façon dont vous pouvez maintenant aider cette personne. Pensez à comment vous pouvez réparer les torts. Parce que Zachée n'a pas dit « Ah bon, maintenant le Seigneur m'a pardonné, c'est bon, je vais juste vivre ma vie. » Il a été trouvé ces personnes à qui il avait fait du tort pour, autant qu'il le pouvait, réparer les erreurs et les fautes dont il était coupable. Pensez comment vous pouvez redonner à ceux que vous avez blessés. Parce que tu es une personne pardonnée, tu dois être une personne changée, une personne transformée. Ou peut-être c'est dans un autre domaine que Dieu veut voir le changement dans ta vie, et c'est par rapport à l'argent. Tu as aimé l'argent, eh bien, on apprend aujourd'hui de ne plus vivre pour l'argent, mais commencer à vivre pour Christ, à ne pas voir ta sécurité dans l'argent que tu as en banque, mais de voir ta sécurité en Christ. Qu'est-ce que Dieu veut changer chez toi, chez moi? On connaît tous des Zachée. Zachée, c'est nous. Mais heureusement, Jésus n'a pas laissé Zachée dans son arbre. Il a demandé de descendre afin qu'il puisse être élevé. Prions ensemble. Oui, Seigneur, nous sommes tellement heureux que tu es un Dieu de grâce, un Dieu qui vient à notre rencontre, un Dieu qui envoie Jésus, qui est devenu pour nous celui qui a donné sa vie. Il est venu chercher et sauver nous qui étions perdus. Mais nous voulons aussi, Seigneur, te prier que tu changes notre cœur, changes notre attitude, changes notre comportement. Toi qui nous donnes une nouvelle identité, une nouvelle relation avec toi, une nouvelle vie, donne-nous d'être aimables envers les autres, apprendre à aimer et apprendre de toi comment faire preuve de miséricorde et de compassion aux autres. Alors Seigneur, instruis-nous et encourage-nous. Mais nous voulons te dire ce matin que nous t'aimons et nous sommes tellement reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Le groupe va s'avancer et on va terminer un peu comme Zachée aujourd'hui. D'une part, on va réfléchir à l'amour de Dieu pour nous, cet amour merveilleux, l'amour de Dieu le Père pour nous. Mais aussi, on va réfléchir à comment on utilise notre argent. Pour Zachée, ça a changé. Et pour nous, ça doit changer également. On va avoir la possibilité de donner nos dîmes et nos offrandes dans les sacs qui vont passer. Et on va réfléchir aussi à comment nous donnons notre vie et notre argent à Dieu. Chantons ensemble ce dernier chant, on se lève pour chanter.